Tous, content de vous retrouver ce matin. Il y en a qui font signe, voilà. C'est cool d'être en famille encore ce matin pour introduire cette nouvelle série Combattre le bon combat, une nouvelle thématique qu'on va poursuivre sur quelques dimanches. Pourquoi une telle série? Parce que je crois que c'est important qu'on prenne conscience, une fois encore, qu'on est dans un combat. On a prié tout à l'heure que oui, il y a la victoire. Oui, il nous a donné la victoire. Mais l'ennemi, c'est vraiment un mauvais perdant. Et puis, il ne veut pas accepter sa défaite. Donc, en attendant, on est quand même dans un combat. Alors, j'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse prendre conscience de ce combat et puis qu'on puisse saisir petit à petit dans cette série les bonnes armes pour combattre. Alors aujourd'hui, on va saisir donc la nature du combat et sa réalité dans nos vies. Je vais introduire cette série. Et puis, au mois de mai, on verra l'équipement du soldat pour résister au combat. Au mois de juin, vous avez tout le programme, saisir la stratégie de Dieu pour remporter le combat. Et puis, au tout début juillet, juste au début des vacances, on partira avec la victoire et puis on apprendra à rester dans cette victoire parce que ça aussi, ce n'est pas facile. Ça vous va? Si vous me dites non, ben j'ai déjà commencé, donc vous prêcherez à ma place si jamais. Alors, combattre le bon combat, c'est une expression que Paul utilise plusieurs fois textuellement. Il l'utilise trois fois, deux fois, il l'adresse à son fils dans la foi, Timothée. Et puis une fois, en parlant de sa propre vie, il dira de Timothée 4:7, « J'ai combattu le bon combat ». J'ai achevé la course. » Et à ce moment-là, lorsqu'il dit ces mots, Paul est emprisonné à Rome. Vous savez, il a eu deux emprisonnements, c'est dans son deuxième emprisonnement. Et puis, la fin semble assez proche. On pense même que on peut dire que c'est ses derniers mots que nous avons vraiment dans la parole de Dieu avant sa mort. Et voilà quelle conclusion il tire de sa vie. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et moi, ça me parle. Je me dis, mais c'est comme si là, on a les enjeux résumés de la vie de Paul. Il arrive au bout et il peut déclarer ceci. Donc, c'est des enjeux distincts, mais en même temps qui forment un tout. Alors, achever la course, c'est quoi? C'est avoir couru l'épreuve qui était proposée et puis avoir tenu bon, avoir couru jusqu'au bout, terminer la course, de la vie chrétienne, passer la ligne d'arrivée. Alors que Dieu a déposé peut-être un rêve dans notre cœur, son rêve, on a parlé de rêve la semaine dernière, une mission, un appel spécifique, ben vous savez que parfois on a envie de tout arrêter. Parfois c'est dur, parfois on est découragé. Le but c'est qu'on puisse arriver à la fin puis dire « j'ai achevé la course, j'ai tenu bon ». Et puis j'ai gardé la foi dans tout ça. Je pense que vous avez tous vécu des circonstances dans vos vies où vous avez peut-être, qui auraient pu vous voler votre foi. Peut-être la compréhension face à un décès, face à la souffrance en général, ou bien une blessure au sein même de l'Église. Un silence de Dieu, toutes ces choses, mettre notre foi en tension. Le but c'est aussi qu'on puisse dire « j'ai gardé la foi ». Et puis Paul a dit donc avec satisfaction « j'ai combattu le bon combat ». Je crois que dans ces mots, il est juste satisfait, il est juste content d'avoir combattu ce bon combat, d'avoir investi sa vie au bon endroit. Et puis on peut comprendre là que non seulement il y a un combat, mais il y a surtout un bon combat. Mais c'est ça qu'on doit saisir ce matin. C'est quoi ce bon combat? Parce que plein de gens essayent de se battre contre plein de choses. Avec ma femme, on a rencontré une dame qui était persuadée que tous les chats du quartier étaient errants et mal nourris. Alors son combat, sa mission qu'elle s'est donnée, c'était de les recueillir. Elle en avait déjà recueilli 27. 27 chats, imaginez. Ah là là. Il y a des combats, mais il y a un bon combat. Il y a des causes qui sont nobles. Mais est-ce que c'est ça qu'on est appelé à faire. Et nos difficultés du quotidien, notre travail, nos relations, nos souffrances, est-ce que c'est aussi ça le combat ou ça fait partie du combat? Toutes ces choses, on va voir ensemble. Et le but est que nous aussi, à la fin de notre vie, on puisse affirmer ce que Paul a affirmé. J'ai combattu le bon combat. Parce qu'imaginez si on arrive à la fin de notre vie et puis on réalise à ce moment-là, bien sûr la grâce est là, bien sûr on est sauvé, mais on réalise que on a passé à côté du principal. Moi, j'ai pas envie de ça. Je remets pas en doute le salut là, d'accord? Mais on a envie de combattre le bon combat. Dans sa première lettre à Timothée, Paul va lui dire ceci. En Timothée 1, 18 et 19, « Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet, en t'appuyant sur ces paroles. Combat le bon combat, avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. » C'est aussi le premier conseil que Paul donne à Timothée, à ce jeune pasteur qui avait besoin, tout comme moi, d'encouragement. On a besoin des pères spirituels qui nous aident, qui sont devant nous, qui marchent devant nous. Et bien, un conseil que Paul lui dit, mais combat le bon combat. Garde la foi. Et puis garde ce cœur droit, finalement, cette bonne conscience quand tu prêches, quand tu vis ton ministère. Garde cela. Et ce matin, si vous avez ce désir de servir Dieu, vous avez ce désir de poursuivre votre marche avec Jésus, si vous avez ce désir de croître spirituellement, et je crois que c'est le cas, si vous voulez entrer dans ces œuvres préparées d'avance, ben ce combat, c'est aussi le nôtre. Ce conseil, il est pour nous. Combat, le bon combat. Alors on doit bien comprendre qu'est-ce que c'est ce combat. C'est ce que nous allons voir maintenant à travers plusieurs textes. On va regarder plusieurs textes de la vie de Paul. C'est vrai, il y en a pas mal. Mais je vous invite vraiment à saisir ces paroles, à prendre le temps. Elles seront là, projetées. Vraiment lire ces mots et essayer de comprendre le combat de Paul. Premier texte dans Colossiens 1, les versets 24 à 29. Paul dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Juste après, au chapitre 2, « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Amen. Alors bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur ces textes, mais je ne vais pas m'arrêter. Simplement, on comprend là pourquoi Paul se bat. D'accord, on comprend ça, on saisit, il a été appelé, puis il se bat pour que chaque homme puisse être rendu parfait en Christ, puisse découvrir le trésor caché en Christ. À l'église de Philippe, il va dire « Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car pour moi, Christ est ma vie. » Et la mort m'est un gain. Donc, si je dois mourir, je vais le faire. Moi, je vais mourir, c'est comme ça. Mais si je dois vivre, je vivrai. Et puis, je continuerai à annoncer ce message. Peu importe. C'est Christ, ma vie. ni la mort, ni la vie peut nous séparer de son amour. Chapitre 3, verset 8. « Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ. » Il accepte de tout perdre. Il était prêt à se battre pour l'Évangile, pour Christ, à cause de cet appel. Et puis, encore quelques textes qui vont nous montrer l'ampleur de son combat. Dans 1 Thessaloniciens 2, versets 1 et 4. « En effet, vous le savez vous-même, frères, l'accueil que nous avons trouvé chez vous n'a pas été inutile. Pourquoi ? Parce qu'après avoir souffert et après avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons puisé en notre Dieu l'assurance nécessaire pour vous dire la bonne nouvelle de Dieu au milieu des biens des combats. Comme c'est Dieu qui nous a éprouvés et approuvés pour nous confier la bonne nouvelle, nous parlons non pas pour plaire à des humains, mais pour plaire à Dieu qui éprouve les cœurs. » Donc là encore, il montre que non seulement il a souffert, il a eu besoin de Dieu pour continuer à vivre ce combat, mais il dit « Mais moi je suis là pour plaire à Dieu, je ne suis pas là pour plaire aux hommes. » 1 Corinthiens 4, verset 9, « Car Dieu, il me semble, nous a exhibés, nous, les apôtres, à la dernière place, comme des condamnés à mort. Nous avons été offerts en spectacle au monde, aux anges et aux humains. » Verset 11, « Jusqu'à l'heure présente, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Diffamés, nous encourageons. Nous sommes devenus les déchets du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. » Puissant, hein, c'est fort. Après, il dit, il va continuer, il va dire, je dis pas ça pour que vous ayez pitié ou quoi. C'est juste pour de nouveau dire qu'est-ce que je vis pour que vous ayez part au salut. Et encore dans une lettre aux Corinthiens, cette deuxième lettre, il dit, « En effet, frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez la détresse que nous avons connue en Asie. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. » Je crois que c'est la seule fois où Paul dit ça comme ça. « Nous désespérions même de rester en vie. » Donc là, dans ces moments-là, ils ont vraiment cru qu'ils allaient y passer, qu'ils allaient y rester. Il y a un dernier texte. « En effet, depuis notre arrivée en Macédoine, nous n'avons pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. » Est-ce que vous arrivez à percevoir un petit peu le combat que Paul menait dans ses textes? Quelle bataille pour que l'Évangile soit annoncé! Il avait reçu vraiment cet appel d'annoncer l'Évangile aux non-juifs, aux païens, qu'on appelle aussi incirconcis. Et puis il était prêt à tout. Parce qu'il savait que rien ne le séparait de l'amour de Dieu. Mais il avait saisi quel était vraiment le combat. Donc il a souffert, il a été lapidé, il a parfois été découragé, abattu, affligé. Il a aussi été malade, il était fatigué parfois. Il s'est souvent senti seul. Même à la fin de sa vie, il dit « Mais tout le monde est parti. Envoie-moi mon collaborateur, viens me rejoindre. » Même à Timothée, il lui dit « Viens me rejoindre. » Il est seul. Ça faisait partie des conséquences d'un combat pour une cause qui est bien plus grande. Paul savait pourquoi il vivait. Et puis il était prêt à mourir pour la cause de l'Évangile. Alors c'est la question que je nous pose ce matin. Savons-nous pourquoi nous nous battons? Déjà, est-ce qu'on se bat? Puis savons-nous pourquoi? Paul désirait que des femmes et des hommes soient sauvés. Il passe vraiment de la mort à la vie. Qui connaissent pleinement Jésus, qui deviennent des disciples. C'était ça son bon combat. Et il a investi là-dedans sans regret. Est-ce que moi je me bats pour ça? Je peux vous assurer que si vous voulez poursuivre le rêve de Jésus, dont il a été question la semaine dernière, bien pour poursuivre celui qu'il a déposé dans votre cœur, il va falloir se battre. C'est pas toujours marrant. Pas toujours drôle, hein. Alors, comment savoir si je suis dans la bonne bataille? Et pour répondre à cette question, il faut vous poser une question juste qui est fondamentale et existentielle. Quel est le sens de ma vie aujourd'hui? C'est quoi le but de ma vie? Quel est le but que j'ai donné à ma vie? C'est souvent ça l'histoire, c'est que c'est nous qui donnons un but à notre vie. Vous pouvez juste prendre quelques secondes. C'est quoi? Pourquoi je vis? Pourquoi je suis là? Se battre pour l'évangile, c'est choisir de réajuster le but de ma vie sur Jésus. Qui je suis, ce que je fais, doit servir ce but-là, ce sens-là. Et je vais dire quelque chose d'assez difficile. Mais si on croit que le bon combat, ça se résume à nos batailles du quotidien, à nos épreuves, à nos souffrances, certes difficiles, je crois qu'on passe à côté. Je crois qu'on se trompe. Qu'est-ce qu'on va dire à la fin de notre vie lorsqu'on posera cette question, mais qu'as-tu combattu? Moi, je vais pouvoir peut-être dire, j'ai combattu le stress, j'ai combattu la fatigue, et franchement, j'ai combattu contre mes enfants qui couraient partout. Peut-être l'anxiété. Peut-être j'ai combattu pour les chats qui manquaient de nourriture dans mon quartier. Combattre le vrai combat, c'est se battre pour Jésus, pour l'Évangile. C'est à ça que nous sommes appelés. Alors dans ce cas-là, nos souffrances, nos épreuves, elles seront plus juste le but du combat, ce sera plus juste le focus sur lequel on regarde la vie ou les lunettes avec lesquelles on regarde la vie, mais elles vont juste en faire partie. Et quelque part, ces épreuves seront nos blessures de guerre. Mais ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Et ce n'est pas là-dessus qu'on va juste prendre le temps et centrer notre vie. Bien sûr, on fera face à la maladie, à bien d'autres difficultés. Mais pourquoi? Pour remporter la bataille. C'est pour ça que Paul s'est battu, pour l'Évangile. Comme je l'ai dit, il était persécuté, malade, découragé, seul. C'était là, c'était présent. Mais ça faisait partie du tout, du package. Il était conscient du prix à payer. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites demain, lundi? Vous allez continuer à faire votre job. Et puis les papas au foyer ou les mamans au foyer, vous allez continuer à vous occuper de vos enfants, c'est vrai. Peut-être que cette semaine, vous aurez le temps de faire du sport. J'ai le plaisir de faire du badminton hier. Ah, ça fait du bien, c'est bien. Continuez à faire du sport. Vous allez continuer à vivre votre quotidien. Mais mon cœur a envie de vous dire ce matin, n'oublie pas quel est le but de ta vie. N'oublie pas. Quand on sait pourquoi on vit, nos souffrances, elles prennent un autre sens. Et Paul pouvait même se réjouir des siennes, vous imaginez? Il pouvait même se réjouir de ses souffrances parce qu'il voyait le fruit dans la vie des autres. Il voyait que oui, il souffrait, mais il voyait l'investissement. Il voyait que des gens commençaient à connaître Jésus. Des vies étaient touchées. Et puis ça l'aidait beaucoup. Il dit, mais je peux me réjouir de mes souffrances. Vous êtes toujours là, ça va? Vous savez ce que vous allez faire demain matin? Troisième question. Il y en a 15 de questions ce matin. Non, il y en a juste 3. Troisième question, comment rester dans la bataille? Et Paul dirait encore à Timothée, de Timothée 2, 3 et 4, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun combattant dans une armée ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » C'est facile à lire. Qu'est-ce qu'on va faire encore avec ça? Alors Paul essaie de lui faire comprendre que dans ce combat, il y a des souffrances et puis que ce combat demande une consécration totale. Pour rester dans la bataille, en fait, il faut garder les yeux fixés sur l'objectif. Alors bien sûr, ce n'est pas nouveau ce que je vous dis ce matin, mais si je dois vous en parler, pour la, peut-être la xème fois. C'est pourquoi ? C'est parce que nos yeux quittent sans cesse l'objectif. Et c'est l'un des plus grands pièges de l'ennemi. Il essaye par tous les moyens de nous détourner, de détourner notre attention. Il ne veut pas que nous combattions le bon combat. Il veut qu'on se trompe de combat. Il veut que nous dépensions notre énergie ailleurs. Puis ça, il faut aussi en être conscient. Alors, quelques exemples. L'exemple qui me vient le plus facile, c'est le boulot, le travail. Combien s'investissent à fond pour leur entreprise ? Mais c'est très bien, soyez des bons employés. Mais ne perdez pas de vue le combat, le vrai combat. Hein, parfois, on fait au-delà de ce que nous est demandé. Moi, je me souviens une fois, quand je travaillais comme chauffeur, j'étais malade. Je devais me lever à 3h30 le matin, tous les matins, charger le camion à 4h, je partais à 5h. J'étais malade ce matin, ça m'arrive jamais, c'est vrai, je suis très peu malade, merci Seigneur. Ce matin-là, je suis malade, je me suis levé quand même. Je me suis dit, je ne veux pas que le chauffeur remplaçant soit en retard. J'ai été charger mon camion, puis une fois que j'ai chargé mon camion, j'ai dit au chef, ben, je rentre hein, parce que je suis vraiment malade. Puis j'ai failli tomber sur mon élévateur. Là. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je me suis investi autant ? J'étais le seul, hein, il y en a plein de chauffeurs. J'étais le seul à faire ce genre de truc. Les gars, ils sont malades, et puis il y a un remplacement qui est prévu, puis ils vont partir un peu plus tard, puis c'est pas grave. Moi, je m'étais donné la mission. Le gars, il fallait qu'il parte à l'heure, que les magasins soient livrés à l'heure. C'est pas moi de gérer ça. J'ai le droit d'être malade. Des fois, on se donne des mandats qui ne sont pas les nôtres. On prend une responsabilité comme si c'était nous qui portons l'entreprise. Et puis, le boulot devient non seulement notre identité, mais devient le sens de notre vie. Et puis, qu'est-ce que ça crée ? Alors, ça crée des difficultés à la maison. Inévitablement, ça crée des tensions dans le couple. Et puis ça crée des difficultés avec nos enfants. Puis il va falloir gérer tout ça. Et on perd du temps, on perd d'énergie, on perd la vision, l'objectif. L'ennemi essaie aussi de nous faire perdre de vue le vrai combat en nous orientant, ou orientant les buts de nos vies vers des désirs qui sont trompeurs. Des désirs qu'on a tous, presque tous. Avoir un peu plus d'argent, le désir peut-être du succès. Et puis bizarrement, c'est là que, alors que tu te dis, ah ouais, j'ai envie de m'investir à la bonne place, j'ai envie de choisir bien mes combats, c'est là qu'on te propose le poste qui va te demander un peu plus. Bien sûr, tu seras payé plus, mais ça va demander un peu plus. C'est ce qui s'était passé quand je voulais partir à l'école biblique. D'un coup, oh, on me propose quelque chose. C'était vachement intéressant. Il essaye, l'ennemi. Bien sûr, le désir de plus de confort, hein, cette insatisfaction chronique avec ce besoin de plus. Alors finalement, on cherche toujours à être confortable, on cherche toujours à avoir plus, à enfin se sentir bien, puis on se bat pour la mauvaise chose. Des mauvais choix, on en fait certainement tous. Ça nous perd du temps, ça nous fatigue. Moi, c'est ce qui arrive quand j'allume la télé, en fait. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ça. Même des fois avec Damari, d'un coup, on allume la télé, puis finalement, bah, on y perd notre soirée. Puis après la soirée, on se dit, c'est nul, hein, on n'en a déjà pas beaucoup ensemble. Non seulement on n'a pas parlé, on n'a rien vu d'intéressant, puis en plus, on sera plus fatigué demain. On perd l'objectif. Alors ce matin, je vous encourage à vous saisir du bon combat, à réajuster les objectifs de vos vies. Et j'aimerais vous raconter une histoire maintenant pour conclure. Une histoire qui m'a beaucoup touché. C'est un récit que j'ai lu dans un livre récent qui s'appelle Potentiel, pasteur Claude Houde, à Nouvelle Vie au Québec, là où est notre ami Mathieu maintenant. Et puis, il a raconté un récit qui date. C'est l'histoire de William Borden, qui est né en 1887. D'accord ? Donc ça date. Et cette histoire-là, elle m'a vraiment touché. Ce gars, c'était l'héritier d'un milliardaire. Un milliardaire à cette époque-là, hein, donc vous pouvez imaginer le pouvoir d'achat que ce gars avait, qui avait fait fortune dans l'industrie laitière. Alors ce jeune, ben, il avait son avenir tout tracé. On lui promettait une brillante carrière, à la succession de son père. Puis voilà qu'il y a deux événements qui vont changer complètement la trajectoire de sa vie. Le premier, il était adolescent, puis là, il est percuté, mais vraiment percuté, hein. Dites-le avec moi, percuté, qui est postillon là, faut que ça... Il était percuté par le message de l'évangile. C'était le prédicateur Moody, qui est assez connu aussi, hein, qui a marqué le 19e, qui donnait une prédication, et puis là, ce jeune William donne sa vie à Jésus. Vraiment une repentance complète. Il donne sa vie à Jésus. C'est fort, quoi. Et puis, il finit ses études secondaires à l'âge de 16 ans. Il termine. Et ses parents ont la bonne idée de lui offrir un voyage autour du monde. Imaginez, on est en 1904. Voyage autour du monde. Il n'y a même pas le Titanic. Il n'a pas fait long feu, hein. Donc il part faire le tour du monde. Il aurait pu se prélasser dans les plus grands hôtels, dans sa cabine luxueuse de première classe. Mais lui, il s'intéresse au paysage et il commence à ouvrir son cœur à la pauvreté autour du globe. Là, il est touché, il ouvre ses yeux sur finalement quelque chose qu'il ne connaissait pas vraiment. À son retour, il va annoncer à sa famille sa décision de partir pour servir les plus démunis de la planète. Papa, je veux faire missionnaire. Oh oh. Vous pouvez imaginer là la déception du père qui avait fondé tous ses espoirs dans ce fils, et puis le rejet qu'il a dû ressentir ce jeune William, parce que ben vous savez quand on sort du cercle, hein, ben on nous parle plus beaucoup, puis ma foi, tant pis pour toi, t'as fait tes choix. Donc son père était vraiment fâché. Mais il ne se décourage pas, William, puis commence à étudier la théologie dans une université reconnue à Princeton. Et puis, à la fin de ses études, qui réussit brillamment, hein, forcément, il était capable, intelligent et tout, eh ben, il reçoit une belle Bible d'études. Puis ça aussi, ça avait de la valeur à l'époque. Une belle Bible d'études, et il décide de partir, servir en Égypte. Alors, il navigue en direction de l'Afrique du Nord. Et puis là, il inscrit dans sa Bible, toute neuve, pas de compromis. Pas de compromis. Sa décision de servir Dieu, elle est entière, elle est pleine. Il y va. Alors il commence, il arrive, donc il commence à servir dans des camps de réfugiés, il y en avait déjà, dans des bidonvilles. Et puis, après quelques temps, il reçoit une lettre recommandée de son père. Ah, des nouvelles de papa. Qu'est-ce qu'il va bien me dire? Puis cette lettre, elle lui annonce qu'il a été totalement déshérité. Il n'aura rien. Puis non seulement il a été déshérité, mais en plus de ça, il le renie en tant que fils. Tu n'es plus mon fils à partir de ce jour-là. Tu n'auras rien. Bien sûr, il a plein d'émotions, William, mais il continue à servir. Il prend sa Bible et puis il écrit « Pas de compromis, pas de retour en arrière ». Et il continue sa mission, servir avec tout son cœur. Puis quelques semaines plus tard, il contracte la méningite. Pas le choix, il faut rentrer. Alors il monte sur un bateau en direction des États-Unis. Et puis là, il a la fièvre, il est mal. Il sent qu'il est aux portes de la mort. Puis il reprend sa Bible, puis il écrit une troisième chose. Pas de compromis, pas de retour en arrière, pas de regret. Et face à la mort, il ne regrettait pas du tout ses choix, les moments qu'il a passés à servir Dieu. Puis il est mort là, sur ce bateau. Il n'a pas eu le temps d'arriver chez lui, aux États-Unis. Il avait juste 26 ans, ce gars. Moi, j'étais vraiment touché par cette histoire-là. D'ailleurs, ce récit a inspiré des centaines de milliers de jeunes à répondre à l'appel de Dieu. Moi, ça me touche. Il avait achevé sa course, bien sûr trop jeune, mais il a reconnu, j'ai combattu le bon combat. Pas de compromis, pas de retour en arrière, pas de regret. Il aurait pu s'occuper de l'entreprise de son père. Il aurait pu essayer que le rendement soit meilleur pour plus de profit. Mais il a choisi le bon combat. Il a terminé sa course sans aucun regret. Alors le temps est court, les amis. Je suis d'accord que ce que je vous prêche ce matin, ce n'est pas évident. On est tellement habitué à notre vie. On est dans des ornières confortables. Mais mon cœur est vraiment pressé au-dedans. Battons-nous ensemble pour l'évangile. Ça doit devenir notre style de vie. J'ai dit, mais nous sommes l'armée du roi. Ok ? On est l'armée du roi. Je ne sais pas si on se rend compte. On est l'armée du roi. Hein, puis on n'est pas l'armée suisse, d'accord ? On est l'armée du roi. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'armée suisse, l'armée du roi. On est un peu mal, quelquefois. Non, il y a Gauthier, un bon soldat, là. Alors ce matin, j'aimerais simplement vous inviter à refaire de ce combat la priorité de votre vie. Est-ce qu'on peut juste incliner nos têtes quelques instants? Et peut-être que pour certains, vous avez besoin d'écrire dans votre vie, dans votre Bible, pas de compromis, pas de retour en arrière, pas de regrets. J'aimerais juste, dans l'intimité, juste ceux qui désirent vraiment replacer leurs priorités dans leur vie, retrouver que, ouais, dire que le sens de leur vie maintenant, c'est ce combat-là. Juste vous inviter à lever la main là où vous êtes, pas pour que je vous voie, mais simplement comme signe, de dire oui, je le veux vraiment. Parce que si on n'ose pas lever la main, alors on n'osera pas partir au combat non plus. Est-ce qu'il y en a qui veulent ça ce matin? J'aimerais prier pour vous. Alléluia. Réorienter les buts de ma vie. Seigneur, ce que je veux le faire pour toi. Je ne veux pas de compromis dans ma vie. Je ne veux pas retourner en arrière. Je ne veux pas de regrets. Je veux te servir toi seul. Mes actions du quotidien, je veux qu'elles te servent. Jésus. Seigneur, je te remercie pour... ce matin, ces frères, ces sœurs qui se lèvent, qui disent oui. Seigneur, je te demande, Saint-Esprit, de oindre leur vie. Seigneur Jésus, Seigneur, je te prie de les aider au quotidien dans ce combat. Seigneur, je prie que chacun de nous puissions choisir d'orienter nos vies pour toi, pour que l'évangile soit encore proclamé. Seigneur, on veut combattre ce bon combat. On est là pour toi. Seigneur, tu es l'essentiel de notre vie. Tu es tout pour nous. Toi, tu as tout donné, tu as tout fait. Seigneur, à notre tour, nous voulons te servir. Et Seigneur, on ne veut pas juste se donner des excuses, on ne veut pas juste détourner le regard. Seigneur, on veut vraiment, là où tu nous as placés, avoir toujours cet objectif en tête. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on se concentre sur des combats qui ne sont pas les nôtres ou qui ne sont pas les bons. On reconnaît aussi là l'œuvre de l'ennemi. Mais on veut encore dire une fois qu'il se trompe. Et là où on perd de l'énergie, ben maintenant on veut prendre cette énergie et la placer à la bonne place. Et Seigneur, merci parce que tu nous soutiens dans ce combat. Comme Paul le dit, Seigneur, c'est toi qui donnes la force pour ce combat. Et on veut se réjouir aussi dans nos souffrances. On veut se réjouir dans nos difficultés. Parce qu'alors que nous mettons notre sens de notre vie à la bonne place, eh ben, nous allons voir aussi des fruits. Nous allons voir aussi des vies se tourner vers toi. Parce que comme on l'a chanté, ton désir c'est que tous soient sauvés. Tu es celui qui sauve. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alors la prochaine fois, on va saisir l'équipement pour résister dans ce combat qui est certes pas facile, j'en suis bien conscient. Que le Seigneur vous encourage vraiment Et ouais, pensez à ça. Chaque jour, dites, ok, pourquoi je me bats aujourd'hui? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis debout? Ça va? Amen.